France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation aujourd'hui argentine pour parler d'écrivains, de poètes secrets et de paysages hantés par la guerre et la littérature avec deux invités, un romancier, Diego Muzio, et un traducteur, Antonio Verli, qui récemment fait découvrir en français une des voix singulières de la poésie argentine, Ricardo Zelarayán. Bonjour Diego Muzio.
Bonjour Mathias, merci beaucoup pour l'invitation.
Et bonjour Antonio Verli.
Bonjour Mathias.
Diego Muzio, vous êtes né à Buenos Aires en 1969. Vous vivez en France depuis une vingtaine d'années. Vous avez publié plusieurs recueils de poésie, des nouvelles et aujourd'hui un roman qui paraît aux éditions Phébus, traduit par Éric Reyes-Roer, L'œil de Goliath, un roman gothique et horrifique qui promène son lecteur de l'Écosse des années 20 jusqu'aux confins de la Patagonie. Et vous, Antonio Verli, vous êtes traducteur, vous nous rejoignez en duplex depuis les studios de Ici Alsace à Strasbourg, et vous faites entendre, vous êtes traducteur de l'italien et aussi de l'espagnol, et aujourd'hui vous faites entendre en français l'œuvre du poète Ricardo Zelarayán, disparu en 2010, L'obsession de l'espace. Vous venez de traduire aux éditions Le Dilettante, est un recueil qui défie les genres, long poème narratif, texte de mémoire, monologue halluciné. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce texte si singulier ?
Alors c'est une rencontre que j'ai faite, à vrai dire, parce que c'est un écrivain que je ne connaissais pas particulièrement, malgré le fait d'avoir vécu 10 ans à Buenos Aires. Puisque c'est un écrivain un petit peu secret, je pense qu'on va y revenir. Et c'est à la demande de l'éditeur Antonin Beer, qui cherchait un traducteur pour ce texte, que j'ai accepté de me plonger avec Solange Gilles dans la traduction de ce texte. Et en particulier par l'intermédiaire d'un autre Argentin, le très talentueux Sergio Aquindo, qui est illustrateur et qui vit à Paris et qui a fait une couverture remarquable pour le livre. Voilà, très rapidement séduit par l'écriture de sa poésie, j'ai évidemment accepté l'invitation de l'éditeur à traduire ce texte.
Alors vous l'avez dit, vous traduisez à quatre mains avec Solange Gilles. Vous aviez déjà traduit plusieurs fois à quatre mains, pas forcément avec Solange Gilles, mais c'était déjà le cas pour le roman pour lequel j'avais eu l'occasion de vous interviewer. Est-ce que finalement vous êtes habitué au fait de traduire à deux ?
Alors, en fait, on s'habitue jamais avec la traduction puisque les textes sont toujours très différents. Donc, on trouve toujours des écueils, des obstacles, des difficultés. Mais traduire à deux ou faire des ateliers en équipe, etc., c'est vraiment une richesse incomparable. On sort de cette pratique un peu monastique et très centrée sur soi-même. Donc, à deux, ça permet vraiment d'ouvrir les vannes de l'imagination et de l'interprétation. C'est vraiment fascinant de pouvoir le faire à quatre mains, en binôme. C'est extrêmement enrichissant.
Il faut dire que l'obsession de l'espace de Ricardo Zelarayán, qui paraît au Dilettante, est bilingue. Et le fait d'avoir le texte espagnol argentin en regard de la traduction française, est-ce que ça change quelque chose à la façon qu'on a de traduire Antonio Verli ?
Alors, à vrai dire, au début du projet, je ne savais pas que l'édition serait bilingue. Et c'était donc une petite surprise. Je pense pas que ça change la façon de traduire, mais ça nous met en tant que traducteur peut-être une responsabilité supplémentaire, puisque certains lecteurs connaissent l'espagnol. Donc on est un peu mis à nu devant nos choix de traduction, de recréation, en particulier quand les langues des auteurs sont assez riches, complexes, avec des références à la culture populaire, des jeux de mots. Donc c'est une façon, quand les lecteurs connaissent la langue d'origine, de rentrer aussi dans le laboratoire de traduction. En fait, je pense que c'est très bien d'avoir une édition bilingue, puisque ça permet que le lecteur voit aussi la part intime et personnelle que le traducteur met dans le texte.
Oui, ça dévoile un peu vos secrets.
Exactement.
Vous êtes un peu tout nu face au texte original. Alors, il faut dire qui était Ricardo Zelarayán. Vous écrivez une introduction, une préface, qui explique un peu sa position tout à fait particulière dans l'histoire de la poésie argentine de la fin du XXe siècle.
Alors, c'est un écrivain qui est assez connu pour être un écrivain qui perd ses textes, qui publie très peu, bien qu'il écrive depuis très jeune. Donc, il est né en 1922, il est mort en 2010. Et son premier recueil de poèmes, donc L'Obsession de l'espace, est publié en 1972. Il a déjà pratiquement 50 ans. Et c'est poussé par d'autres amis poètes qu'il finalement décide de faire publier. Mais il est assez connu pour justement avoir perdu la plupart de ses textes, les oublier, voire les jeter. Il parle d'avoir déménagé plus de 27 fois à Buenos Aires. Et on peut imaginer que justement dans toutes ces divagations dans la ville, des cartons se sont perdus et oubliés dans des taxis, dans des bars, etc. Donc il est un peu connu pour ça. Et l'autre particularité, c'est que les textes sont ensuite souvent récupérés par des amis écrivains ou des gens du milieu littéraire et publiés des fois plusieurs dizaines, enfin une dizaine d'années après leur rédaction. Donc la particularité de ce poète aussi, c'est qu'il, bien qu'il ait fait partie un peu d'une revue qui s'appelle Littéral dans les années 70, une revue littéraire d'avant-garde, et qu'il a travaillé dans le milieu de l'édition en tant que correcteur et traducteur et journaliste, il se retrouve en fait à revivre au fil des générations, puisque c'est des jeunes générations de lecteurs qui vont le remettre sur le devant de la scène. Par exemple, des textes posthumes continuent à sortir en Argentine aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un écrivain dont le nom est connu, mais finalement, on découvre l'œuvre encore aujourd'hui en fait.
Alors, il faut aussi parler peut-être de ce roman assez mythique, inachevé, au titre intraduisible, La Tapeinada, peut-être la boîte de conserve.
Oui, ou là, peut-être la canette peignée. Je ne sais pas trop. Ça fait des mois que j'y pense et j'ai toujours pas trouvé de solution.
Et qui est un peu le texte emblématique, en tout cas dont tout le monde connaît le nom, que personne n'a lu, mais que tout le monde cite comme étant l'œuvre de Ricardo Zelarayán, la plus intrigante peut-être, à part L'Obsession de l'espace.
Alors oui, en fait, il faut dire qu'il y a moins d'une dizaine de livres publiés, à vrai dire, de la poésie et de la prose, et dans ce roman, je pourrais pas vous dire grand mot dessus, parce que je ne l'ai pas lu attentivement, mais ce que je peux dire de sa prose, justement, c'est qu'elle est extrêmement fougueuse et inventive. Elle mêle, comme d'ailleurs on le retrouve dans les poèmes de L'Obsession de l'espace, des références à la culture populaire, la langue parlée de tous les jours, les intonations de Buenos Aires et ceux des provinces, en particulier d'Entre Ríos, dont il est originaire. Et ça crée une langue très très particulière, très personnelle, vraiment difficile à traduire par ailleurs. Et donc il est connu pour cela, pour cette création linguistique et à la fois aussi souvent des métaphores extrêmement inventives, des images très particulières. Donc c'est une espèce de chaos ludique de langage, et on retrouve ceci à la fois dans La Tapeinada, dans l'autre roman La piel de caballo, La peau de cheval, ou dans les poèmes de Joña Criolla, voilà, où la langue est encore plus travaillée et encore plus, on va dire, foutraque que dans L'Obsession de l'espace, ou du moins les poèmes les plus fous de L'Obsession de l'espace.
Sueño sueño lejano y bello. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. ¡Hey! De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Vous écrivez, Antonio Verli, avec Solange Gilles, dans votre introduction, l'œuvre de Zella Ryan a bien cette qualité littéraire d'être un cauchemar pour les traducteurs et un rêve pour les lecteurs. Alors cette formule est très belle, mais aussi assez exigeante. Ce texte a été pour vous un vrai défi sur le plan poétique ou peut-être même personnel?
Oui, parce que, alors, comme je vous disais, j'ai vécu en Argentine 10 ans. Solange est d'Argentine. Et normalement, on est suffisamment imbibé de la culture portaigne, donc de Buenos Aires. Mais c'est vrai qu'il y a des décalages quand même de langue par rapport aux années 70 et aujourd'hui, d'une part. Mais surtout, ces transformations qu'il opère par rapport à des éléments de culture populaire. Par exemple, dans différents de ses poèmes, on retrouve des vers transformés de chansons enfantines, par exemple, d'anciens proverbes même qui ont à voir avec la culture, on va dire, provinciale, donc qu'on utilise seulement à Entre Rios et pas à Buenos Aires. Donc il y a une phase de déchiffrement, il y a une phase de reconnaissance de ces marques et de comprendre ce qu'il fait avec ces mots, ces transformations, pour pouvoir essayer de les restituer en français. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre d'extrêmement important dans son écriture, je pense, c'est le rythme, la cadence et les variations qu'il fait opérer aux mots au niveau du sens. Par exemple, il est capable d'utiliser un mot qui, dans un vers, signifie quelque chose et va évoquer une autre image et le réemployer d'une autre manière un peu plus loin. Alors, comme le français et l'argentin sont des langues qui sont relativement proches, on a souvent des heureux hasards dans la traduction, mais c'est vrai qu'il faut souvent réfléchir à cette intention initiale, à ce jeu, à cet aspect très ludique de la construction du rythme qu'il opère, et c'est un grand défi de respecter ça, et à la fois c'est aussi un grand plaisir de pouvoir s'amuser autant avec le langage. C'est un cauchemar heureux quand même, finalement.
Mais cette obsession de l'espace, alors c'est aussi vraiment une obsession du mouvement, parce que, comme vous l'avez dit, justement, il y a une forme d'errance entre la province d'Entre Rios, le Paraná, Buenos Aires, une forme d'exil, de choix d'un exil intérieur, hein, c'est ce qu'il explique presque dans cette postface qui conclut le recueil et qui est signé par Ricardo Zella Ryan lui-même. Je pense que c'était un texte qui accompagnait une réédition du recueil antérieur. Comment est-ce qu'on sent ça quand on traduit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est un peu obligé d'abandonner en français, ce mouvement entre les différentes parties de l'Argentine?
Alors, on a essayé quelquefois, quand c'était vraiment possible, de transposer d'une certaine manière, de déplacer ces mouvements et ces subtilités très précise, presque chirurgicale dans le texte. Alors peut-être que Diego pourra en parler aussi, mais par exemple, il fait dire certains mots, certaines phrases à ses personnages, et le choix de certains vocables, même dans la graphie des mots, on se retrouve avec l'intonation, par exemple, d'Entre Rios ou de Córdoba ou d'autres provinces par rapport au reste du texte. Donc, des fois, ça, c'est extrêmement compliqué. C'est une question de traduction qui est extrêmement compliquée à réaliser, qui revient, par exemple, à se poser la question de comment on fait pour traduire des mots de dialecte par rapport à une langue standardisée. Bon, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que c'est aussi à chaque fois la façon dont l'auteur joue de ces mouvements-là, et il faut essayer de restituer cela un petit peu. Maintenant, il est vrai que il y a des choses dans le texte qui sont très difficiles à faire passer en français, et peut-être ces subtilités qui ont à voir avec un Argentin qui n'est pas tout à fait celui de Buenos Aires, en français, on n'arrivera pas à le comprendre. Mais dans ce cas-là, en tant que traducteur, on essaye de faire passer ces différences d'une autre manière, en changeant de registre, de langue, en essayant de donner une personnalité plus particulière au personnage, et de respecter tout du moins ces différences et ces mouvements finalement. C'est un petit peu le jeu qu'on se pose, puisqu'il faut quand même essayer le plus possible de faire passer ce qu'il y a dans le texte.
D'autant plus que la poésie de Zela Ryan est ancrée dans une langue sociale, populaire, saturée de tango, de télévision, de proverbes. Un peu, c'est une matière extraordinairement vivante que le langage anime en elle-même. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, c'est une boîte dans laquelle on enferme un moment un peu de la langue argentine, des langues d'Argentine.
Oui, exactement. Et cette boîte, il la prend en main et il la secoue comme un shaker. C'est peut-être le plus intéressant au niveau de la traduction par rapport à ça, c'est que comme il fait pas une juxtaposition simplement ou des citations simplement de ces éléments de culture populaire, de ces extraits de chansons, des choses qu'il a lues dans le journal, des phrases qu'il a entendues. D'ailleurs, lui-même le dit dans un entretien. En général, quand il commence à écrire, ça part souvent d'une phrase qu'il a entendue. Et il parle d'un roman inachevé qu'il avait commencé, dont évidemment on n'a plus aucune trace. C'était une phrase que son coiffeur lui avait dite, et c'est à partir de cette phrase qu'il arrive à dérouler tout d'un coup 20 pages. Donc on le sent dans le texte, mais c'est vrai que ces phrases-là sont vite transformées, vite modifiées. Donc cet aspect un peu ludique du langage et des références, on prend du plaisir, nous aussi, à les secouer en français.
Todo trepida. ¿Qué es trepida?
Lo que pasa es que esta parte del poema sucede en un salón comedor de un tren, entonces trepida es lo que se mueve.
Todo trepida, todo se estremece. En el tren que pasa al mediodía por la Gran Salina. Yo me he sorprendido mirando la sombra del avión que pasa por la Gran Salina. Pero eso no explica nada. Es como una gota que se evapora enseguida. Hay que distraerse, dicen. Hay que distraerse mirando y recordando para tapar el sueño de la Gran Salina.
Un piano colgado como una araña del hilo se ha detenido entre los pisos 2 y 13. Un camión pasa cargado de ventiladores de pie que mueven alegremente sus felices.
En 1948, en Salta, fuimos de noche a cazar vizcachas y ranas. La conversación se apagó con el fuego del asado, abrumados como estábamos por el cielo negro y estrellado. Nerviosamente encendíamos y apagamos las linternas hasta quedarnos sin pilas. Tampoco puedo explicarme por qué sueño con pila de linternas, con pila para radiotransmisores, ni por qué sueño con lamparitas de luz delicadamente guardadas en sus cajas respectivas, ni por qué me he sorprendido mirando el filamento roto de una lamparita quemada. Nunca he visto. Nunca podía imaginarme la lluvia cayendo sobre la Gran Salina. Yo no tengo objetivos, pero me gusta.
Tout trépide, tout tremble. Dans le train qui à midi passe par la Grande Saline, je me suis surpris à regarder l'ombre de l'avion qui passe par la Grande Saline. Mais cela n'explique rien. C'est comme une goutte d'eau qui d'un coup s'évapore. Il faut prendre l'air, dit-on. Il faut prendre l'air et regarder et se souvenir pour taire le rêve de la Grande Saline. Un piano suspendu, comme une araignée à un fil, s'est arrêté entre le 12e et le 13e étage. Un camion passe, chargé de ventilateurs qui remuent allègrement leurs hélices. En 1948, à Salta, Nous sommes allés une nuit chasser grenouilles et viscaches. Et la conversation s'est éteinte avec le feu des grillades, accablés que nous étions par le ciel noir et étoilé. Nous allumions et éteignions nerveusement les lampes de poche jusqu'à ce que les piles soient vides. Je suis tout aussi incapable de m'expliquer pourquoi je rêve de piles de lampes de poche, de piles de radiotransistors, ni pourquoi je rêve d'ampoules délicatement rangées dans leurs boîtes respectives, ni pourquoi je me surprends à regarder le filament cassé d'une ampoule brûlée. Je n'ai jamais pu m'imaginer la pluie tomber sur la Grande Saline. Antonio Verli, nous venons d'entendre un extrait du film Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, une scène de prison dans laquelle un professeur lit avec les prisonniers le poème de Ricardo Zelarayán, La Grande Saline, au personnage principal du film. C'est aussi une des raisons du retour un peu à l'actualité de Ricardo Zelarayán, le succès du film Los Delincuentes.
Oui, sans doute. C'est un film qui a effectivement eu un écho important et on ne trouve pas tous les jours des films où on peut lire un long poème narratif dans une scène complète, donc ça a effectivement marqué les esprits. Je pense aussi qu'en Argentine en particulier, certains jeunes poètes aussi opèrent une récupération de l'œuvre de Zelarayán en particulier. Alors je me souviens plus du nom, mais je sais que un poète avait écrit un livre qui est vraiment un recueil en clé d'écriture de la Grande Saline et en particulier aussi de ses autres textes en prose. Voilà, donc il y a vraiment une admiration actuellement pour ce poète et qui sert d'inspiration importante. Et c'est peut-être une vague actuelle après des vagues précédentes, dans les années 90 justement, au début des années 2000. Différents écrivains, disons... argentin, donc d'une génération un petit peu plus ancienne que les plus jeunes aujourd'hui, comme Washington Cucurto, qui est né en 73, ou Fabian Casas, qui est né en 65, qui sont des grands admirateurs, fervents admirateurs de Zelarayán, qui l'ont connu, bien entendu. Et Washington Cucurto, qui est par exemple les poètes aussi, a écrit un long texte où Zelarayán est personnage. Donc en fait, régulièrement, à chaque génération, on a vraiment une revivification de son œuvre et de sa personnalité. Et depuis quelques années, effectivement, et particulièrement grâce à ce film, Zelarayán revient un peu sur le devant de la scène.
Alors, la Grande Saline, c'est un peu le centre de gravité de l'obsession de l'espace. Qu'est-ce que c'est pour vous que cette Grande Saline, justement, à la fois ce mouvement méditatif, mais en même temps, qui reprend cette vibration de ces trains qui traversent une Grande Saline, dans laquelle il n'y a rien en réalité. C'est ça qui est assez beau, c'est qu'on est vraiment en train de contempler un peu le ciel infini d'un désert de sel en regardant passer la technologie autour de soi.
Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Alors, je m'étais pas rendu compte au moment de la lecture et de la traduction. C'est un peu plus tard, en lisant un peu plus à propos de cet auteur et en particulier des entretiens. Il était assez rude, apparemment, Zelarayán, avec ses compatriotes écrivains et poètes. Il en sauve pas beaucoup. il se reconnaît pas dans beaucoup de ses contemporains et même antérieurs. D'ailleurs, quelques noms qu'il cite comme étant admiratifs de leurs œuvres est plutôt classique. Mais il y en a un en particulier dont on retrouve sans doute certains échos dans cette façon de créer un poème narratif assez méditatif, on va dire, et contemplatif, et introspectif, et probablement un peu métaphysique, quelque part. C'est Macedonio Fernández, qui a été traduit en français dans les années 90, enfin, les années 80, 90 et début des années 2000, qui était par ailleurs aussi une influence de Borges, qui est sans doute l'écrivain argentin le plus connu au monde. Macedonio Fernández est moins connu, c'est une génération antérieure, hein. Il est né en 1874 et mort en 1952, mais c'est une littérature extrêmement moderne, où se mêlent des réflexions souvent philosophiques et métaphysiques, et avec de l'humour, aussi un aspect assez ludique. Et je trouve qu'on retrouve dans la Grande Saline cette influence de Macedonio, de manière assez claire. Mais bon, Zelarayán se revendique souvent de lui.
Certains ont même parfois pu imaginez que Macedonio Fernández était un personnage de Borges lui-même.
Exactement.
Et il existe d'ailleurs, je signale pour les auditrices et les auditeurs, un documentaire de Ricardo Piglia pour la télévision argentine des années 90 où justement on voit Ricardo Zelarayán parler de Macedonio Fernández. Donc si vous voulez en savoir plus sur Macedonio Fernández et voir ce personnage qu'était Ricardo Zelarayán, ce documentaire est facilement accessible sur YouTube et même on mettra le lien sur le site de l'émission. Oui, je crois que Zelarayán a justement revendiqué la présence de Macedonio Fernández comme étant pour lui l'influence première.
Oui, il le cite par ailleurs dans la postface, en fait, mais c'est très étonnant parce qu'à première vue, on ne saisit pas forcément en quoi, puisque stylistiquement, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes assez différents, mais c'est quand on rentre un peu dans le texte et qu'on sent les questionnements que fait Zelarayán dans ses poèmes et dans ses œuvres, on retrouve un petit peu cette écriture un peu littéraire, métaphysique de Macedonio. Et puis, il y a un autre aspect sans doute qui est directement lié à la figure de l'écrivain. Macedonio est connu comme étant un auteur qui a écrit souvent par fragments. Et en particulier, il y a un texte, si je me trompe pas, c'est le Musée du roman de l'Éternel, qui est un roman posthume, qui en fait est écrit sous forme de chapitres et de fiches, qui n'ont pas un ordre définitif, et c'est une œuvre infinie pour laquelle l'auteur a jamais réussi à mettre un point final, avec des réflexions sur l'écriture, sur le roman, un amour idéal, etc. Et ce type de personnage qui écrivait ou qui faisait de la littérature sans avoir une intention d'être un professionnel, disons, de l'écriture, bon, je pense que c'est aussi cette posture-là que revendique complètement Zelarayán, qui par ailleurs dit dans un entretien que pour mériter le titre d'écrivain, il faut publier un livre par an. Voilà, il explique que c'est la bureaucratie de la littérature. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il en écrivait beaucoup, il en terminait souvent peu, et il en perdait la moitié, donc il conclut en disant « je ne suis pas un écrivain ». Et Macedonio, qui est probablement l'un des auteurs les plus modernes du XXe siècle en Argentine, de la première moitié du XXe siècle, partage sans doute cette posture, si on veut dire, enfin, posture, c'est peut-être pas forcément le moment, mais cette circonstance de ne pas revendiquer réellement un statut d'écrivain professionnel. Et pourtant, quand on le lit, à n'en pas douter, c'est l'un des plus grands.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Antonio Verli, dans l'obsession de l'espace, il y a quelque chose de très narratif. Il y a aussi des personnages qui sont grotesques parfois, oniriques, plutôt drôles, comme ce personnage d'Hermenegildo, une figure hybride presque mythologique. Et ça ne devait pas être facile non plus à traduire, à donner vie à Hermenegildo.
Non, ce qui est difficile, c'est que on est dans ce poème, comme d'ailleurs quand on regarde un peu comment démarrent ces autres textes, les textes en prose, les romans, on est in medias res, non ? On est tout de suite dans le feu de l'action, et le poème qui s'appelle Un rêve de jour démarre avec une apostrophe à ce personnage, Hermenegildo, et un autre personnage répond Ordenie che sargento, et on est tout de suite dans un dialogue qui est cocasse d'une certaine manière et difficile d'appréhender. Donc il faut effectivement.
Mais militaire.
Et voilà. mais le problème, c'est qu'on a déjà un premier jeu de mots impossible à traduire, si l'on veut, qui est un casse-tête dès le deuxième vers, où il y a un jeu de mots et il y a une connotation sans doute de montrer que ce personnage Hermenegildo est probablement un personnage qui. Comment dire, qui parle un espagnol, de la province, un peu campagnard, avec une accentuation différente, etc. Il est sans doute endormi, il se réveille, il mélange ses mots. Donc, on se retrouve très vite dans une situation un peu surréaliste. Et on n'a pas beaucoup de contexte. On se laisse guider par la scène, par les dialogues et par les images qui sont créées par ces dialogues et par ces réflexions de cette voix qui nous conte le poème, qui quelquefois est celle d'un personnage, quelquefois c'est celle du poète. Et bon, la difficulté, c'est de réussir à emmener le lecteur dans ses méandres, mais c'est vrai qu'il est compliqué quelquefois de saisir précisément le contexte, même si ce qui est raconté est relativement narratif. Ce sont pas des poèmes qui parlent d'une grande abstraction, etc., mais Mais c'est une narration qui est toujours en funambule sur un fil pour lequel les décors sont esquissés, se transforment rapidement, les sensations, c'est un grand travail sur les sensations aussi. On ne sait pas toujours par quoi elles sont évoquées. Voilà, donc il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination, non seulement pour le lecteur quand il le lit, évidemment en espagnol et donc en français aujourd'hui, mais aussi pour le traducteur qui doit quelquefois faire confiance à son instinct pour résoudre ces petites aspérités qui ne sont pas explicites, disons, dans le poème. Et voilà.
Diego Mutio, vous êtes poète vous-même. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces questions de difficulté de traduction? C'est des choses que vous connaissez bien, j'imagine.
Oui, bah justement, je viens de traduire à l'espagnol La Tour d'Amour de Rachel, un roman qui n'y avait pas de traduction à l'espagnol, sauf une vieille traduction de 1920. Je me retrouvais bien sûr avec tous ces problèmes, mais par rapport à un langage... des marins, un langage un peu de la Bretagne aussi, des marins bretons, et des débuts des siècles. Donc ça a été aussi un peu un casse-tête pour la traduction. Et comme j'ai l'avantage d'avoir ma femme, elle est française, je pouvais consulter parfois, hein, et quand j'avais des doutes. Et on n'était pas toujours d'accord.
D'accord.
Ça a été un problème aussi.
Et Diego Mutio, votre premier roman, L'œil de Goliath, paraît en France, traduit par Eric Reyes-Roer aux éditions Phébus. Alors même si l'Argentine est présente, on le verra, c'est aussi et surtout un roman européen qui s'ouvre sur les séquelles de la guerre de 14.
Oui, bah, ça m'a toujours passionné, la guerre de 14 et la deuxième guerre aussi. Même quand j'habitais encore en Argentine, c'était un sujet sur lequel je lisais beaucoup. Et ça a été un vrai choc en arrivant en France de retrouver toutes les séquelles de cette guerre partout. Hein, tous ces monuments aux morts, toutes ces stèles avec les noms de combattants morts dans chaque village. Donc ça m'a poussé davantage à lire encore plus sur ces sujets-là. Et bon, je pense que le roman, c'est une façon... sorti de ces lectures historiques.
Alors le roman s'ouvre vraiment, alors peut-être in medias res aussi, comme dans la poésie de Ricardo Zelarayán, on est juste après la Première Guerre mondiale. On ouvre sur le personnage du docteur Pierce, qui a justement lui-même un morceau d'éclat d'obus dans la tête et qui souffre d'une migraine atroce qui l'empêche de faire ce qu'il est censé faire à ce moment-là. Donc c'est vraiment à la fois, certes, les séquelles et les traces de la guerre sur les hommes, mais en même temps qui sont toujours présentes et toujours en acte.
Oui, lui-même, il était dans les tranchées et il essaye de soigner ses patients, que c'est des patients, c'est une clinique qui est pour l'élite, hein, quelques patients sélects que lui, il choisit. Et il essaye de les soigner par l'hypnose, la méthode que déjà Freud, à l'époque, il avait déjà laissé de côté parce qu'il ne considérait pas efficace. Mais lui, il y croit. Donc, il essaye de laisser de côté toute cette façon de soigner la maladie psychologique de l'époque qui était assez violente, hein, électrochoc, des traitements par l'eau froide, etc. Et il se centre et il essaye de soigner ses patients par l'hypnose.
Alors ces patients sont atteints de shell shock, c'est-à-dire de névrose de guerre, ce qui traverse le roman vraiment en filigrane. Qu'est-ce que c'était pour vous que ces états mentaux extrêmes et pathologiques, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans, la trace de la guerre ou au contraire la possibilité de rentrer, d'aller jusqu'au fond de l'horreur par le souvenir, par ce qu'il en reste?
Les deux choses, je pense. Je continue à me demander comment ces combattants, ils ont réussi à rester plus d'une journée dans la tranchée. Et c'était atroce. Vivre, c'était l'enfer, vraiment. Et donc, je me retrouve à me demander souvent comment ils sont faits pour survivre dans ces conditions-là. Et bon, et après, s'ils ont survécu, finalement, hein, parce que, je l'ai dit dans le roman, j'imagine que les personnes qui ont survécu à cette guerre, ce n'est pas les mêmes qui sont allées en guerre.
Alors le sanatorium du Dr Pierce devient une façon de théâtre d'ombre, où se rejoue justement la guerre, mais à l'intérieur de chacun des patients. Et est-ce que vous avez imaginé cette clinique comme étant un peu juste une forme d'extension mentale ou imaginaire de la guerre?
Oui, parce que finalement, chaque patient, il arrive là et il ne peut pas se défaire de ceux qui ont vécu. Hein, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et malgré les efforts de Pierce, ça n'arrive pas à s'en sortir.
Et alors, il y a la construction du roman assez complexe. On retrouve d'abord le récit autour de Pierce lui-même et ensuite d'impatience qui vous permet d'ajouter une série de journaux, de documents autour d'un de ses patients, justement. On ne va pas essayer de tout raconter du roman, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est une ressource finalement assez fréquente des romans, justement, de terreur. Ça fait penser à Lovecraft, par exemple, qui adore utiliser les récits de gens devenus fous. Est-ce que c'était une de vos influences, ça, ou une façon d'envisager le roman, cette parole déportée?
Alors, les journaux, ils sont apparus dans les romans face à un problème technique que j'avais trouvé, que c'était qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que va raconter ce personnage dans son phare isolé au bout de la terre, et comment je vais m'en sortir pour pas tomber dans la simple description du néant. Et face à ces problèmes techniques, bon, j'ai imaginé qu'il commençait à écrire un journal, mais qu'après, il trouvait aussi un journal dans cette phare, de l'ancien garde-phare de l'œil de Goliath, et c'est comme ça que ça s'appelle le phare, que c'était un ancien détenu de la prison de Ushuaïa. Et lui, en lisant ce journal, il commence à essayer de comprendre cet personnage, cet assassin qui était avant à sa place. Donc, ça a été une solution face à un problème purement technique pour moi.
Alors vous venez de nommer l'œil de Goliath, ce phare du bout du monde. Et est-ce que c'est ça qui est aussi à l'origine du roman, ce lieu où vous vous êtes dit « Ah, ça c'est tellement romanesque, je veux faire un récit autour du phare du bout du monde ».
Oui, bon, j'avais très envie d'écrire quelque chose sur un phare. Et bon, je me retrouvais face aussi à ce problème, c'est que les phares, comme des endroits où se passent des choses bizarres, c'est tellement visité par la littérature que ça m'arrêtait un petit peu, un moment. Mais après, bon, l'envie d'écrire sur ça, ça l'emportait. Donc je me suis lancé dans l'écriture. Et c'est des endroits vraiment très mystérieux, hein, les phares, hein, où on pense que tout peut arriver dans la solitude.
Mais non, justement, puisque rien ne peut arriver. C'est aussi un endroit dans lequel on pourrait se sentir extrêmement en sûreté.
Oui, et les fantômes qui peuvent surgir de cette solitude, peut-être ça peut devenir des choses plus dangereuses que des dangers réels. Hein.
Vous écrivez, Diego Muzio, « La guerre était le porte-clé de l'abîme ». Et dans cette image, on voit bien tout ce qui relie à la fois les images qu'on emporte avec soi, justement, de la guerre, dans un phare dans lequel, là, on n'est plus tout seul, justement. Mais on est aussi là avec tous les monstres qu'on porte en soi.
Oui, 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 oui. Bah, justement, c'est ce qui arrive à ces personnages, ex-combattants de la Première Guerre, mais aussi à l'ancien garde-phare.
Oui, on va essayer de pas trop raconter des détails. Mais néanmoins, vous avez dû sans doute... comment est-ce que vous avez travaillé cette documentation? Est-ce que vous êtes intéressé vraiment à l'aspect médical, par exemple, des traumatismes de guerre, à l'aspect psychiatrique, de comment est-ce qu'on essayait de les soigner à l'époque et tout ça?
Oui, j'ai lu. Je m'ai pas beaucoup documenté parce que je voulais aussi laisser la place à l'imagination de faire son travail. Mais j'ai lu un petit livre sur Shell Shock ou au DCC sur les sujets écrits par Freud, Abraham et Filianski. Au moins pour pas faire des grosses erreurs en écrivant sur les sujets. Mais je voulais aussi me laisser la place d'imaginer des choses par rapport à ça.
Donc vous travaillez avant tout avec, avec l'imaginaire.
Oui, je pense. Disons, il y a un travail d'investigation, mais ce n'est pas dans le but de faire une recherche pour les romans. Je lis énormément d'histoires. J'adore lire sur l'histoire et beaucoup de mes idées partent au sort de ces lectures d'histoire. Donc, c'est pas dans le but d'une recherche documentaire, mais bien sûr que ça contribue.
Mais Diego Muzio, est-ce que ce phare, l'œil de Goliath, existe?
Non, ça n'existait pas, et Lilo non plus. C'est une invention. C'est situé là, par là, au bout de, près du Soya, mais ça n'existait pas.
Ah oui, il n'y a pas de phare de ce genre-là sur la côte de la Patagonie?
Non, il y a un phare, le phare du bout du monde, du roman de Verne. Mais c'est un tout petit phare, c'est pas une tour, c'est un petit phare dans son île, une petite maison. Et on peut voir la réplique en Ushuaïa, justement.
Alors le roman oscille entre récit médical, journal de bord, enquête psychologique et fantastique. Et qu'est-ce qu'il y a comme influence littéraire pour vous derrière? Est-ce qu'il y a vraiment des textes qui sont un peu à l'origine de l'œil de Goliath?
Il y en a tellement. Je dis toujours, j'aime pas citer des écrivains parce que j'ai toujours peur d'oublier des influences importantes. Mais bien sûr que je peux citer Stevenson déjà pour commencer, Poe, un de mes lectures de jeunesse.
Poe, j'y ai pensé avec Arthur Gordon Pym.
Mais oui. Melville, Borges, Bill Casares, il y en a énormément, je pense.
Il y a aussi le thème du double, justement, dans le récit. Et là aussi, bon, on pense à peut-être Jack Kinahan, Bradley Evans, dans votre cas, Pierce ou Stevenson.
Oui.
Et, ça donne aussi son côté extrêmement intriguant et perturbant au roman, Diego Muzio.
Oui, alors je raconte toujours la même chose et j'ai l'impression que les gens ne me croient pas. Mais j'étais pas conscient que j'étais en train de travailler avec les doubles jusqu'à la moitié du roman. Quand je suis arrivé à la moitié du roman, je me suis arrêté et j'ai regardé, j'ai relu et je me dis « Ah ben, mais là, je suis en train de travailler avec les sujets du double. » Et c'est à partir de cette reconnaissance que j'ai pu finalement mettre les sujets du double partout dans les romans. Mais au départ, je fais pas des plans préalables avant de commencer à écrire. Donc, je me laisse porter un peu par l'histoire, par les personnages. Donc, forcément, je suis un peu dans les brouillards quand j'écris. Jusqu'à, dans ce cas-là, la moitié du roman.
La drogue.
Je viens de publier un livre qui s'appelle « Approche ». Et le titre dit peut-être ce que je tiens concernant la drogue. C'est un moyen, peut-être surtout dans les temps où la théologie décline, pour voir encore des choses qui ne sont pas tout à fait rationnelles. J'ai quelquefois expérimenté avec la drogue, avec le mescaline, LSD, et surtout avec les drogues mexicaines. Mais la plus belle drogue qui existe, c'est le vin. Il la mesure en soi et il ne fait pas des cauchemars. Albert Hoffman, qui a développé le LSD, est un ami à moi et nous avons quelquefois expérimenté avec le LSD et le psilocybine, c'est un champignon de la Mexique. Mais ce sont les approches et pas les drogues mêmes qui m'ont intéressé. Et surtout, pour les jeunes, c'est très dangereux.
Nous venons d'entendre l'écrivain allemand Ernst Jünger dans une archive INA de 1971. Le vin, la meilleure drogue, parce qu'il ne donne pas de cauchemars. La guerre, elle en donne des cauchemars.
Ah bah oui, justement, ça m'a étonné d'écouter cet fragment de Jünger. Je connaissais pas, je savais pas qu'il avait parlé sur la drogue, mais moi, j'ai lu ce journal de guerre, justement. pas dans les vides de me renseigner par rapport au roman, mais simplement parce que ça m'intéresse énormément. Mais sûrement, ça m'a aidé aussi à écrire le roman.
Vous citez d'ailleurs Junger, oui. L'expérience, la guerre comme expérience intérieure.
Oui.
Et rien que le nom, la guerre comme expérience intérieure, c'est un peu aussi l'histoire de l'œil de Goliath.
Tout à fait, tout à fait, oui. C'est, j'ai cherché justement à parler de ça, surtout.
Alors, L'œil de Goliath, c'est aussi un roman de sang, un roman de crime, un roman de transgression, un roman d'images terrifiantes. Et comment est-ce que l'auteur vit avec ces images-là, justement? Comment est-ce qu'elles vous apparaissent? Est-ce qu'elles vous troublent, vous aussi?
Ce que je peux dire, c'est que je sais, quand j'écris un roman comme celui-là, et de terreur, de pas montrer beaucoup, de pas être très visuel dans la peur que ça peut générer. Parce que je mets toujours comme exemple Lovecraft. J'adore le climat qu'il peut générer avec ses livres, mais je me sens très déçu au moment qu'il commence à me décrire les monstres. Et c'est pas, je sais pas, des descriptions d'un monstre. Et donc, j'essaye, pour moi, la terreur, on ne le voit pas. On l'écoute, on les sent, et on les rêve, mais les voir, c'est plus compliqué pour moi. Donc j'essaye de suggérer plus que de montrer.
Pourtant, il y a des scènes très frappantes que je ne vais pas raconter dans L'œil de Goliath, qui est un roman extrêmement impressionnant aussi visuellement, en tout cas qui laisse une longue impression derrière et des images qui vous hantent. C'est un roman réellement qui effraie, qui va au fond de l'angoisse, dans ce qu'elle peut avoir de plus violent, comme si justement cet œil de Goliath, qui est censé être un phare, qui est censé éclairer avec de la lumière, là au contraire, envoyait des pinceaux d'obscurité dans nos consciences.
Oui, et surtout dans la conscience des personnes qui l'habitent, non, mais plus qu'autour de lui.
Le motif du phare, c'est fondamental dans le roman, c'est à la fois tour de guet, tombeau, œil géant. Et est-ce qu'il y avait quelques aspects symboliques pour vous là-dedans, dans le motif du phare, à part son isolement?
Non, je pense que ce qui m'attire, justement, c'est ça, c'est la solitude, c'est se retrouver seul dans cette tour, avec ses souvenirs, avec ses pensées et avec, dans ces cas-là, dans le cas de ces personnages, la terrible culpabilité. On racontera un peu plus. Mais je pense que c'est ça, un des sujets du roman, la guerre, mais aussi la culpabilité.
Diego Muzio, L'œil de Goliath, c'est un roman d'éléments aussi animaux, de présence animale, des rats, des oiseaux, des crabes, des albatros, des cochons, même dans une scène aussi remarquable. Est-ce que vous êtes sensible à ça aussi autour de vous, non seulement à une forme d'ambiance, mais aussi une ambiance animale, à la présence de l'animal?
Oui, il y en a toujours des animaux chez mes écrits. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas dire pourquoi. Peut-être parce que dans certains cas, on est si proche et en même temps si éloigné. Pour moi, c'est un mystère. Donc, avoir un chat, non, et voir un chat, c'est un autre monde, un monde fantastique d'une certaine façon. On n'a pas accès.
Peut-être parce qu'ils sont effrayants aussi, d'un certain côté.
D'une certaine façon, oui. Et il y a des oiseaux surtout qui, à moi, me font peur. Ils ne sont pas beaux. Tous les oiseaux qu'on trouve très beaux, pour moi, ils ne sont pas beaux. Les oiseaux, c'est effrayant.
Il y a quelque chose aussi dans le cri de l'animal.
Dans le cri de l'animal, bien sûr, aussi. Dans le cri, oui, dans la façon qu'il bouge.
Et un autre personnage aussi du roman qui participe énormément à l'ambiance, c'est la folie. C'est-à-dire, c'est vraiment un monde entre le monde peut-être le nôtre et le monde des animaux, le monde de la peur, de la différence, de l'angoisse. C'est celui de la folie, du décalage entre le lecteur et l'écrivain, et puis le personnage qui, lui, est dans un autre,
oui,
dans un autre monde.
Oui, la folie, on est tous, on peut tous confronter à un moment donné à la folie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on serait capable de faire dans des situations extrêmes, comme l'arrive à ces personnages du roman. Et c'est quelque chose que j'ai dit dans le roman. Est-ce qu'il y a une normalité? Est-ce qu'on est tous normaux ou pas? Est-ce que la folie, on n'est pas, de certaine façon, dans chacun de nous? Et ça peut éclater dans des moments très précis ou pas.
Mais en même temps, dans L'œil de Goliath, là, pour le coup, la folie, c'est ce qui permet aussi de mettre le roman en marche, en fait, en action. C'est quand même,
oui, dans les romans, les grands déclencheurs de ces folies, c'est justement la guerre et aussi la solitude et la culpabilité.
Il y a aussi une vision, peut-être à un autre niveau, de ce que c'est, qu'est-ce que c'était que l'Europe. Parce que pour vous, il y a aussi un arrière-plan, justement, entre l'Europe et l'Argentine, quelque chose qui se joue là dans cette rencontre.
Sûrement, mais je vais faire une confession, je suis complètement, totalement incapable d'écrire quoi que ce soit si à un moment donné n'apparaît pas l'Argentine. Je ne sais pas comment. Donc, dans ces cas-là, d'un roman où je parle de la guerre de 14, je me suis confronté au problème de comment je vais mettre l'Argentine dans cette histoire. Et, bon, finalement, j'ai trouvé la façon de le faire. Mais oui, il y a des liens très très forts, je pense, entre l'Argentine et l'Europe, au moins dans l'histoire littéraire.
Como se vuelve siempre al amor, te vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Te llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, el cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente y su dignidad, y busco el sur como tu cuerpo. En la intimidad te quiero, sur. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Es sur.
Vous écrivez, Diego Muzio, l'imagination est la seule arme pour combattre la réalité. Et cette phrase est un billet retrouvé dans un tiroir. Ça résume assez bien quand même une forme de philosophie du romanesque en réalité.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait vrai. Pour moi, ça marchait comme ça. De me plonger dans la littérature un peu pour échapper à, dans certains moments, dans une réalité que je voulais pas voir ou que je voulais pas vivre. Ça me permettait de décrocher de cette réalité, justement.
Mais il y a quand même un paradoxe là-dedans, c'est que c'est pour aller dans une réalité qui est bien pire, en fait.
Oui. C'est un peu un cauchemar, c'est vrai.
C'est même clairement un cauchemar.
C'est un cauchemar, oui, effectivement.
Est-ce que pour vous, le roman, c'est aussi le lieu du cauchemar?
Ça peut l'être, pas tous les temps, ça peut devenir autre chose. Mais après, bon, on est entré pour les auteurs qu'on aime, les livres qu'on aime. Donc dans ces cas-là, oui.
Parce
moi,
que vous, les romans que vous aimez, c'est plutôt des romans de terreur.
Effectivement, oui. Non, je lis de tout, mais je lis pas mal de terreur, oui, effectivement. Et ça a été mes premières lectures. Poe, par exemple, Lovecraft.
Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas seulement en Argentine, mais aussi en Amérique latine, en règle générale, il y a comme un retour de ce roman de terreur gothique très marqué dans un genre, comme ce que fait, par exemple, Mariana Enriquez, mais aussi Monica Oreda, et tous ces gens, comme s'il y avait voilà, un retour de ce genre-là dans la grande littérature en force.
Je ne dirais pas que c'est un retour, je dirais plutôt que c'est une naissance, parce que le terreur, il n'était pas Il n'y avait pas d'écrivain de terroir en Argentine. Moi, je ne peux pas parler pour toute l'Amérique latine, mais en Argentine, c'était plutôt les fantastiques. Et on avait quelques exemples isolés. Il y a quelques contes de Borges, qui pour moi, ça fait partie de la littérature de terroir. Quelques nouvelles aussi de Cortázar, bon, Quiroga, bien sûr. Mais ce n'était pas une littérature très, très fréquentée. Et à partir, je pense, de Le mal menor, roman de Feeling, l'écrivain argentin, s'est permis d'écrire des livres de terreur. Et bon, et après, avec Mariano Enríquez, bien sûr, Samantha Schweblin, Luciano Lamberti. Maintenant, oui. Mais c'était pas bien vu, je pense. C'était pas de la littérature sérieuse aux yeux de je sais pas qui. Et maintenant, oui, on peut écrire des livres de terreur. Il y en a énormément, il y a des très bons livres.
Diego Muzio, L'œil de Goliath est donc un livre de terreur, entre guillemets, ou en tout cas qui s'inscrit dans cette continuité ou ce genre-là. Comment est-ce qu'on cherche à faire peur, alors? C'est peut-être le plus difficile à décrire.
C'est très difficile, justement. Surtout aujourd'hui. La réalité, en soi, ça fait très, très peur. Mais bon, il y a toujours les grands écrivains de terreur qui nous guident.
Mais est-ce que c'est vos peurs, par exemple? Est-ce que vous utilisez vos propres peurs
Pour
construire un roman? Est-ce que vous dites, ah, moi j'ai très très peur de ça, j'aimerais pas que ça m'arrive?
Oui, effectivement, oui. C'est surtout mes propres peurs, oui, effectivement. Oui.
Et donc là, est-ce que vous avez une expérience de phare, par exemple, d'enfermement?
Non,
je sais pas. Est-ce que l'écrivain de terreur travaille en se faisant peur lui-même?
Non, mais ça m'arrive d'avoir des cauchemars assez réels, on va dire. Ce genre de cauchemar duquel on ne peut pas se réveiller parfois. Mais non, je n'ai pas d'expérience concrète à vous raconter par rapport à ça.
Non, mais un peu comme vos personnages finalement, Diego Muzio. Ils sont dans un cauchemar dont ils ne vont pas se réveiller.
Oui, ou peut-être oui.
Ou peut-être
et c'est,
oui.
Et c'est ça le problème, qu'ils vont se réveiller.
Merci beaucoup, Diego Muzio.
Merci à vous.
Merci, Antonio Verli, de nous avoir rejoints depuis ici. Alsace à Strasbourg.
Merci beaucoup, Mathias.
L'œil de Goliath de Diego Muzio est paru aux éditions Phébus. L'obsession de l'espace de Ricardo Zellarayan, traduit par Solange Gilles et Antonio Verli, est publié aux Dilettantes. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec Sébastien Royer à la technique aujourd'hui à la Maison de la Radio et David Darrocha pour Ici Alsace à Strasbourg. La préparation était assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure, mais d'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster cette conversation littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture. Bonne fin de week-end sur France Culture.